La personne décroche en disant « Christ ressuscité, j'écoute
ah, ». C'est pour moi. Voilà. Chose qui régulièrement me confirme dans ma foi chrétienne. Voilà. Alors, mes confrères, j'ai dit que je venais au temple, m'ont demandé le sujet, sur la politique, ils m'ont dit « Tu vas parler de politique, toi ?» Donc, je ne suis pas un spécialiste de la politique. Ma spécialité, c'est plutôt l'enseignement de la littérature, de la philosophie, bon, une formation théologique aussi, mais la politique, je connais pas trop. Enfin, je veux dire, hein, je suis pas... On a dans notre église des gens qui ont beaucoup étudié la question. Donc, même si c'est enregistré, ne m'en veuillez pas trop si ce que je vais dire ne relève pas de la profondeur analytique que l'on pourrait peut-être attendre d'un expert. Alors, je me suis demandé comment introduire mon sujet. J'ai pensé que je pouvais le faire avec Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski, donc qui a un commentaire extraordinaire des trois tentations de Jésus au désert. C'est dans un roman que vous avez sûrement lu, ou alors vous prévoyez un jour où vous avez beaucoup de temps pour le lire, les frères Karamazov, donc un monument de la littérature mondiale. Et dans un petit passage de ce roman, eh bien, on a ce petit extrait qui fonctionne comme une parabole. Hein, c'est Ivan Karamazov qui décline à son jeune frère Alyosha un conte hein, qu'il a lui-même composé. C'est une thématique qui est assez intéressante. Je dis souvent aux jeunes, si vous voulez que le curé de votre paroisse ne revienne jamais manger chez vous, ça peut arriver, hein. Eh bien, au plat de résistance, vous lui parlez de l'affaire Galilée. Ensuite, et au dessert, vous n'oubliez pas de lui parler de l'Inquisition. Comme ça, voilà. Hein. On y a droit très souvent, comme catholique, et particulièrement avec des ados, c'est une bonne guerre. Après tout, voilà, ça fait partie aussi d'un patrimoine à assumer. Et alors, Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski imagine qu'au XVIe siècle, moment le plus fort de l'Inquisition espagnole, Jésus revient parmi les siens. Ça peut chanter ça, enfin bon, voilà, Jésus revient parmi les siens. Bon, voilà. Et alors, on est à l'époque de l'Inquisition. Et le grand inquisiteur, un religieux, le fait immédiatement arrêter par ses gardes, alors qu'un miracle vient d'avoir lieu, une petite fille a recouvré la vue, les gens l'ont reconnu, l'acclament, on recommence à jouer, je dirais, la scène des rameaux, et il le fait mettre dans un cachot, et il vient le voir nutamment, un peu comme Nicodème, et il y a là un long dialogue qui est magnifique. Alors, c'est amusant parce que j'ai trouvé ce texte-là sur des sites d'athéisme qui y voit une dénonciation radicale de la religion en général et de la religion catholique en particulier, mais moi je le traduis vraiment comme l'un des plus beaux éloges du Christ qui soit. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais vous le présenter, même si l'aspect critique n'est pas absent, mais après tout c'est toujours bien, comme je dis quelquefois aux lycéens, la mise en boîte ça conserve. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce dialogue ? Eh bien, en fait, le grand inquisiteur va venir reprocher à Jésus d'avoir refusé les tentations au désert. Et peut-être c'est une thématique un peu facile, etc., mais en réalité, le texte a une profondeur vertigineuse, et si on le lit à contrario, on s'aperçoit effectivement, on prend conscience, et pour moi ça a été vraiment une découverte extraordinaire, de cette étonnante liberté de Jésus le Christ, et notamment, pour ce qui est de mon sujet, dans le domaine politique. C'est-à-dire que, véritablement, les choix qui vont être faits par le Christ, dans ce passage d'Évangile, que je ne vous relis pas, que vous connaissez, eh bien, sont véritablement extrêmement éclairants, et je pense que nous en sommes au tout début de la compréhension de l'Évangile. Même si ça fait 20 siècles que le Christ est venu, c'est une intuition très forte pour moi, nous n'avons encore pas compris grand-chose et nous en sommes au tout début de notre découverte. Ça, j'en suis convaincu. Alors, le grand inquisiteur parle à Jésus, qui d'ailleurs ne prononcera pas un seul mot. Mais c'est le grand inquisiteur qui parle. Je cite Dostoïevski. Pourquoi es-tu venu nous déranger? Car tu nous déranges, tu le sais bien. As-tu le droit de nous révéler ne fût-ce qu'un seul des secrets du monde dont tu viens, etc. Bon, il y a tout un préambule. Et ensuite, le grand inquisiteur va directement au but. Il s'adresse à Jésus. Je cite Dostoïevski. Juge toi-même par conséquent. Qui avait raison de toi ou de celui qui t'interrogeait? Le Satan, l'adversaire, le démon, etc. Souviens-toi de la première de ces questions, pas textuellement, mais de son sens général. Tu veux aller vers les hommes, et tu vas vers eux les mains vides, avec seulement la promesse d'une liberté qu'ils sont incapables de comprendre dans leur simplicité et leur indignité native, dont ils ont peur par surcroît, car il n'y a et il n'y a jamais eu d'état plus intolérable aux hommes et à la société que la liberté. C'est radical. Et ça éclaire complètement le choix du Christ. Alors quand je dis ça aux lycéens, ils me disent « Oh, c'est pas vrai, on veut être libre, voilà. » Je fais une petite démonstration un peu rapide. Je dis « Mais imaginez la chose suivante, le directeur de votre lycée arrive en disant « On change le règlement du lycée. » Oui. Maintenant, c'est une parole de Rabelais, 16e siècle, humaniste, « Fais ce que voudra. » Voilà le règlement de Saint-Michel. Oh, génial. Bon. Imaginez maintenant le lundi matin, le radio-réveil sonne, en général sur énergie, hein, chez les jeunes, c'est pas toujours RCF, bon c'est comme ça. Et à ce moment-là, vous vous levez en disant « Ah zut, un lundi matin, enfin ils disent ça autrement d'ailleurs, donc voilà, il faut aller au bahut. » Et en même temps, il y a la petite voix qui vous dit « Mais non, fais ce que voudras, c'est toi qui choisis. » Et c'est là que l'atroce torture commence. Entre la couette qui dit « Tu viens » et le devoir de se dire « Voilà, je prépare pas mon avenir en restant couché. » Atroce torture qui est réglée en général par le règlement du lycée qui dit « Eh bien, tu dois venir le lundi matin en classe. » C'est un peu gros comme trait, j'en conviens, et quand on est adulte, on fait des choix différents, mais ça demeure extraordinairement vrai. Alors, voilà ce que conseille le grand inquisiteur à Jésus, et je cite toujours Dostoïevski, « Vois-tu ces pierres dans le désert aride et brûlant? Change-les en pain, et l'humanité accourra vers toi, tel un troupeau affamé. Elle te sera reconnaissante et soumise, mais tremblera sans cesse de te voir retirer tes mains et d'être privée de pain. Mais tu n'as pas voulu priver l'homme de la liberté, et tu as rejeté l'offre en te disant qu'il n'y aurait plus de vraie liberté là où l'obéissance s'achèterait par le pain. Et tu as répondu que l'homme ne vit pas de pain seulement. Ne savais-tu donc pas que l'esprit de la terre se dresserait contre toi, au nom de ce pain terrestre précisément, qu'il lutterait contre toi et te vaincrait? Des siècles s'écouleront et un jour viendra où la sagesse et la science humaine proclameront l'inexistence du mal et par la suite du péché, affirmant qu'il y a seulement des affamés. Nourris-les et tu les rendras vertueux. C'est avec ce cri qu'on lèvera l'étendard contre toi et qu'on détruira ton temple. Ils finiront par jeter leur liberté à nos pieds en nous disant « Asservissez-nous, mais nourrissez-nous » Ils comprendront eux-mêmes que la liberté n'est pas compatible avec le pain terrestre et il ne leur permettra pas d'en avoir chacun suffisante, car jamais ils ne parviendront à partager équitablement. Voilà. Alors, vous voyez, la vision est extraordinairement pragmatique. Ce grand inquisiteur est redoutablement intelligent. Et il se dit, au fond, il y aurait un moyen efficace qui serait de dominer les hommes, et autant que ce soit nous qui le fassions, puisque de toute façon, les hommes sont incapables de se diriger avec la liberté, et qu'ils n'ont de cesse de la confier à quelqu'un d'autre. Tu seras notre guide, notre fureur, notre leader. Dis-nous ce que nous devons faire. Tu es notre guide éclairé. Les hommes n'ont de cesse de vouloir se débarrasser de leur liberté. Et toi, Jésus, tu laisses la liberté aux humains, tu leur laisses ce cadeau, dit le grand inquisiteur, qui est extraordinairement empoisonné. Et il y a même ce soupçon, mais c'est ça que fait le diable souvent, de dire « Je crois que tu n'aimes pas beaucoup les humains pour les laisser libres, parce que c'est pas possible. Ils t'en voudront et ils te quitteront. Ils cesseront de te suivre, ils iront vers d'autres églises, d'autres systèmes, d'autres leaderships, etc. » Donc voilà, tu vraiment... Et quand l'inquisiteur finit en disant « ça c'est un peu redoutable, mais historiquement ça se tient », Heureusement, nous avons fait autrement que ce que tu as dit. Voilà. Vous traduirez comme vous voudrez. Hein. Voilà, mais ceci m'a semblé une bonne introduction, faut pas que je fasse trop long quand même, oui, par rapport à notre sujet, c'est-à-dire que finalement, dans ces tentations au désert, qu'on pourrait détailler, parce que Dostoïevski, c'est un texte vertigineux, hein, je vous invite à le lire, il est disponible sur Internet ou dans toutes les bonnes librairies, mais donc, il y a vraiment, chacune de ces tentations est prise, y compris celle du pouvoir, celle du... Hein, au fond, voilà, d'être roi, etc. Et tout ça avec la meilleure conscience du monde. Hein. Nous devons guider cette liberté, etc. Parce que les hommes, de toute façon, voudront s'en débarrasser. Alors, comment se termine cet épisode ? S'étant tu, après avoir parlé longuement, le grand inquisiteur attendit une réaction de son prisonnier. Son silence lui pesait. Le captif s'était borné, pendant qu'il parlait, à fixer sur lui un regard doux et pénétrant. Visiblement résolu à ne pas rentrer en discussion. Le vieillard aurait préféré qu'il lui répondît quelque chose, fût-ce en lui disant des choses amères et terribles. Sans prononcer un mot, il s'approcha soudain du vieillard et l'embrassa avec douceur sur ses lèvres exsangues de nonagénaire. Ce fut toute sa réponse. L'inquisiteur tressaille sous ce baiser et quelque chose tremble au coin de sa bouche. Il se dirige vers la porte, l'ouvre et lui dit « Va, maintenant et ne reviens plus, plus du tout, plus jamais, jamais. » Donc, nous avons bien du mal, finalement, hein, à gérer cette liberté, hein, qui fait dire à certains philosophes, je pense à Gaucher, que le christianisme est peut-être justement la religion de la sortie de la religion. Hein, c'est-à-dire, au fond, ce choix que nous offrons, cet exercice de la liberté, permet y compris eh bien, de ne pas se rendre culte, etc., et de... refuser, au fond, ce qui est proposé, c'est aussi complètement le jeu de la liberté. Alors, je regardais un petit peu dans les Écritures ce qui était dit, je vais peut-être répéter ce que d'autres ont dit avant moi, ou diront après, peu importe, et j'ai repéré qu'effectivement, dans la phase initiale, le peuple de Dieu n'a pas de roi, comme les peuples voisins. Et donc, effectivement, c'est une revendication du peuple qui, d'ailleurs, a l'air de vouloir s'aligner sur les autres nations, hein, et Dieu résiste. Alors, c'est très intéressant, à mon avis, de voir cette résistance et cette méfiance du Tout-Puissant par rapport à la revendication, eh bien, finalement, de confier sa liberté à un souverain. Je fais complètement le lien dans tout ce que je lirai après avec Dostoïevski et ses tentations de Jésus au désert. Donc finalement, on va, comme vous le savez, sacrer Saül, mais avec beaucoup de restrictions. Il ne s'agit pas, effectivement, hein, de sacraliser le roi, etc. C'est un fils de Dieu, mais il doit être le défenseur des pauvres, etc. Et finalement, vous savez que ce premier essai n'a pas été couronné de succès, mais ça arrive, hein, et que finalement, on va avoir un prototype de roi meilleur avec David de Bethléem, d'humbles conditions d'ailleurs, hein, puisque le texte révèle, et ça s'appelait beaucoup aux enfants, hein, que c'est à l'origine un petit berger. Hein, donc voilà. Et il va initier donc une tradition. Voilà. Au niveau de Jésus, donc on s'apercevra assez aisément que chaque fois que la foule eh bien, commence à le proclamer roi, il part en courant et que sa royauté ne sera finalement véritablement proclamée que sur le patibulum, hein, c'est-à-dire cette inscription quelque peu ironique quand même, que l'autorité romaine faisait apposer au sommet de la croix pour expliquer le motif de la condamnation. Alors, chez les catholiques, on a toujours INRI, hein, Jésus de Nazareth, roi des Juifs en latin. Et donc, effectivement, il y a là quelque chose qui pourrait apparaître dérisoire dans cette royauté écartelée d'un condamné qui n'a plus ni beauté ni force, car au fond, qu'y a-t-il de plus faible qu'un homme ainsi cloué au bois. Alors Jésus va effectivement récuser, hein, contrairement peut-être à beaucoup d'autres personnages historiques, eh bien toute velléité politique, alors que apparemment un courant d'opinion, d'après ce que l'on voit, l'aurait très volontiers porté à la tête de la nation, y compris dans un vaste mouvement révolutionnaire. Il y avait, vous rappelez, à cette époque, les zélotes qui signaient d'un Z qui ne voulait pas dire Zorro. Bien. Donc voilà. Et ceci dit, il y a de la part de Jésus une distanciation, mais aussi d'une certaine manière une prise d'acte des autorités. Hein, vous connaissez cet épisode de la pièce, il s'agit de payer l'impôt à César, hein, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On le traduit habituellement comme le fait non pas de récuser le pouvoir temporel, mais de refuser de le diviniser. Hein, c'est César. Ça, ce n'est pas autre chose. Voilà, ce qui fait que dans les premières communautés chrétiennes, on va poursuivre dans cette lignée en proposant eh bien, un respect des autorités légitimes, de l'État, etc. Mais avec une vigilance qui va être installée dès les premières communautés, on le trouve chez saint Paul, donc ce respect de la personne. Et effectivement, toute la vision politique que l'on va avoir dans le christianisme, donc chez nous, chez les catholiques, elle est résumée dans le compendium de doctrine sociale de l'Église, un document qui reprend, je dirais, toute une série d'enseignements officiels de notre Église, eh bien, il y a toujours cette insistance extrême sur la personne, et donc sur cette valeur inestimable de la liberté personnelle, celle-là même que contestait le grand inquisiteur tout à l'heure. Donc un pouvoir qui s'auto-divinise devient d'ailleurs la bête de l'Apocalypse. Donc il y a là quelque chose, mais qui est récurrent chez l'humain, et le grand inquisiteur l'avait bien repéré, c'est cette propension humaine à vouloir diviniser l'autorité. Pourquoi ? Bien pour qu'elle soit indiscutable. Parce que finalement, lorsque l'autorité devient indiscutable, eh bien, à ce moment-là, c'est aisé de s'y soumettre et les états d'âme vont cesser. Vous connaissez peut-être l'expérience de Milgram, quelque chose de tout à fait fascinant, ce professeur d'université américain qui avait imaginé de faire torturer virtuellement, il n'y avait pas d'électricité, hein, quelqu'un par des étudiants, un sous-prétexte d'expérimentation scientifique. Donc au fond, répéter l'expérience un certain nombre de fois sur des campus, dans des entreprises, et il s'était aperçu que quand lui, en blouse blanche, ordonnait à un volontaire au départ, d'envoyer des décharges électriques à un soi-disant élève qu'il fallait punir, eh bien, celui-ci obéissait jusqu'à la mort, souvent. Et vous savez que cette expérience a été reproduite avec le jeu de la mort, hein, donc une fausse émission télé, où cette fois on voyait une présentatrice tout à fait charmante d'ailleurs, elle est très très agréable, ah pardon, excuse-moi, mais, et donc qui poussait les candidats et candidates à torturer un acteur sans branchement électrique, là aussi, mais virtuellement, là aussi, jusqu'à la mort, 380 volts. On peut imaginer assez bien ce que ça peut faire comme dégâts. Voilà, cette autorité qui serait effectivement indiscutable parce que divinisée. Autrefois, eh bien, César, à un moment la science, aujourd'hui, et c'est redoutable, les médias, la télévision dans certains cas, et c'est bien ce qu'a produit cette expérience du jeu de la mort. Donc, cette propension de l'humain à renoncer à cette liberté, à soumettre sa liberté à une autorité qui lui paraît indiscutable. Et là, visiblement, eh bien, nous avons, hein, comme chrétiens, un devoir de résistance, clairement, hein, qui est exprimé, qui s'est exprimé courageusement à certaines périodes, hein, dictature, par exemple, pas toujours assez, mais c'est véritablement, je pense, ici, très spécifiquement chrétien. Alors, qu'est-ce que va être finalement la communauté politique dans une vision chrétienne ? Je n'ai pas beaucoup de temps pour l'esquisser, il me reste que 8 minutes, mais pour redire simplement que la personne est le fondement et la fin de la communauté politique. Donc, présupposer que la personne eh bien, est capable d'être responsable et de gérer sa liberté, ce, encore une fois, que contestait le grand inquisiteur. Mais pourtant, la religion chrétienne nous dit ça, nous parle d'un Dieu qui croit en l'homme, qui croit en la capacité de l'homme de pouvoir éclairer sa liberté et faire des choix qui le font grandir. C'est sa vocation en humanité, et c'est le beau message de l'Évangile. Je crois que c'est véritablement le goût de la bonne nouvelle. Alors, la doctrine sociale de l'Église catholique parle beaucoup du bien commun. C'est une notion qui fonde, je dirais, une vision générale de la société, non pas le bien de certains, on se rappelle la formule de je ne sais plus quel président américain, ce qui est bon pour l'Amérique est bon pour le monde, je ne sais pas si on était d'accord avec ça en Somalie, enfin bon, peu importe. Voilà, non, c'est le bien commun. Et ça, ce point-là, effectivement, nécessite une ouverture, un regard sur les autres, etc. Et une insistance aussi, ça m'a intéressé dans cette doctrine sociale de l'Église, de ne pas confondre le peuple et la masse. Le peuple et la masse. Le premier, le peuple, est animé par la vie de personnes conscientes et responsables. Et ça, c'est la vision, je dirais, que décline l'Évangile. C'est-à-dire que Christ va aller vers des personnes à qui il va parler, même des gens peu fréquentables, même des gens qui ont des vies cabossées, même des gens qui ont eu des histoires pas possibles. Samaritaine, avec tous ses maris, elle n'est pas vraiment le prototype de la dame catéchiste. Hein. Bon, c'est comme ça. Et pourtant, j'ai rien contre. Hein. Véritablement, il y a cet appel à quelque chose qui fait grandir. Et oui, la Samaritaine, quand même, au début, elle n'a pas l'air de comprendre grand-chose quand elle prend Jésus pour un plombier en pensant qu'il va lui installer l'eau sur l'évier. Bon, voilà, c'est un petit peu réducteur. Mais après ça, elle commence à avoir des préoccupations religieuses. Est-ce qu'on adore Dieu sur le mont Garizim ? Il faut être samaritain pour voir ça, quand on voit que c'est beaucoup plus petit que le Semnose, enfin bon. Hein. Et puis, finalement, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe à ce moment-là. Hein. Et la masse, c'est une masse inerte, manipulée, manipulable, en demande de manipulation. Et je crois que cette notion-là est importante. Et au fond, le grand inquisiteur voit l'humanité comme une masse. Et dans ce cas-là, si on voit l'humanité comme une masse, eh bien, effectivement, il faut prendre le pouvoir. Et il vaut mieux que ce soit nous qui la dirigions, hein, tant qu'à faire. Mais si on la voit comme un peuple, eh bien, ces choses sont tout à fait différentes. On est au service du bien commun. Et on voit, effectivement, cette capacité qu'ont les humains à s'organiser. Voilà, alors je ne vais pas rentrer dans trop de détails encore, mais il y a beaucoup de choses dans cette doctrine sociale de l'Église. J'insiste aussi sur ce sont des textes, je dirais, qui sont assez nombreux dans ce sens-là, le respect de la dignité humaine, hein, et aussi un présupposé qui n'est peut-être pas si évident que ça, mais qui se construit, et dont on peut faire l'expérience dans un certain nombre d'occurrences, c'est au fond que la vie en société acquiert toute sa signification si elle est basée sur l'amitié. Alors ça peut paraître un peu niais, un peu naïf, un peu... Mais après tout, peut-être que Jésus est un peu naïf, et quelquefois la naïveté, ça marche. Donc, il y a là quelque chose qui est un projet. Ça ne marche pas du premier coup, hein, mais... Je me rappelle, quand j'étais tout jeune religieux, on a eu ce qu'on appelle un maître des novices. Hein, donc quelqu'un qui nous guide pendant une année de formation très spécifique à la vie religieuse. Et je lui disais, je suis un petit peu inquiet, n'est-ce pas, je suis loin d'être le religieux que je rêve d'être. Et il m'a répondu, oh, faut te laisser une marge de progression. Hein. Bon, c'était pas mal. Ça, c'est salésien, ça. Saint-François de Sales, il parle un peu comme ça. Alors voilà. Donc, effectivement, on a une marge de progression, hein, parce que on ne sait peut-être pas, hein, l'utopie inventée par Thomas More, c'est Utopos, c'est le lieu qui n'existe pas. Hein, mais par ailleurs, il y a cette foi, cette conviction en Dieu, bien sûr, mais aussi en cette capacité de l'humain à être image de Dieu, et donc à vivre le meilleur de lui-même. C'est un peu ce qu'on dit quand il y a un baptême, n'est-ce pas ? C'est qu'on va solliciter le fait, dans la prière, que ce petit être qui va recevoir le baptême, si c'est un enfant, eh bien, puisse révéler peu à peu ce qu'il a d'unique, mais aussi ce qu'il y a de magnifique, d'irremplaçable, et qui peut faire grandir lui-même les autres, et voilà, un petit peu la société. Bon voilà, alors l'amitié et le don gratuit. Alors ça c'est aussi quelque chose qui est un peu utopique, hein, mais il y a donc là, finalement, dans l'exercice de l'autorité par exemple, quelque chose qui est de cet ordre de la gratuité, hein, du don, de quelque chose qui est en termes de service. Hein. Christ n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Quelques premières images qui nous sont données de notre nouveau pape me réjouissent de ce point de vue-là, dans les petits signes qu'il donne, y compris dans ses chaussures. Hein. Les journalistes qui ont noté les chaussures du pape. il a gardé les mêmes. Mais en fait, c'est une petite révolution, vous savez. Voilà. Les chaussures de marche. Voilà. Bien. Donc voilà. Et finalement, eh bien, le projet chrétien, c'est de prendre acte que toute société a besoin d'une autorité. Politiquement, Denis Diderot le disait aussi très bien dans l'encyclopédie, hein, c'est-à-dire qu'au fond, c'est la seule légitimité de l'autorité, c'est le fait que nous devions nous organiser ensemble. Si nous partons faire une petite croisière avec un voilier, c'est pas du tout quelque chose qui me fait rêver personnellement, mais enfin, j'imagine assez bien qu'il faut quand même que quelqu'un dirige la manœuvre. Si on a tous une idée différente sur la manière d'orienter la voile et le gouvernail, on est en grand risque de chavirer. Donc, effectivement, il y a cette nécessité, il y a besoin d'une autorité, mais il y a cette vigilance et, encore une fois, cette référence, cette référence à la liberté humaine et à cette autonomie. Voilà. Cette autonomie qui est très importante et qui est essentielle à rappeler. Alors je termine donc, puisque j'avais commencé avec le grand inquisiteur, bien, en rappelant effectivement ces choix de Jésus qui sont finalement à la fois décapants, c'est quelque chose qui est très subversif comme message en définitive, que l'on n'aura jamais fini d'explorer, et je crois encore une fois, et je réinsiste là-dessus, que ces intuitions évangéliques, on en est à leur tout début. On est passé par des égarements, celui du grand inquisiteur, et par ces tentations de puissance, ces tentations, mais d'une certaine façon, moi je suis assez heureux, je ne devrais peut-être pas dire ça, on ne mettrait pas ça dans le compte-rendu, mais de ce qui se passe actuellement dans mon église catholique, afin qu'elle soit beaucoup moins dominante. Il y a un évêque, j'ai bien aimé, qui disait, depuis le concile, on a prié pour avoir une église pauvre, et maintenant on est exaucé. Mais je trouve, moi je suis heureux d'être prêtre maintenant, et quand je vois certains récits des prêtres des années 50, voilà, une situation tout à fait différente, ça ne fait pas rêver. Enfin, je veux dire, on est aujourd'hui, je crois, dans, peut-être, effectivement, numériquement, s'il faut compter le nombre de divisions, c'est Staline qui suggérait ça pour le Vatican, combien de divisions, eh bien, oui, on n'a plus beaucoup de divisions, peu importe, mais je crois que ça nous pousse à aller vers cet essentiel de l'Évangile, et personnellement, enfin, je ne suis pas d'une famille qui était au départ croyante, etc. J'ai découvert l'Évangile comme une bonne nouvelle et véritablement, je me réjouis de cette époque qui, justement, nous pousse un peu eh bien, à aller vers cet essentiel et à retrouver cette extraordinaire liberté du Christ, hein, cette bonne nouvelle à laquelle il nous appelle. Voilà, merci.
Alors merci Père Tournade, et vous voyez que quand, avec humilité, vous disiez je ne sais pas si je suis le plus qualifié pour parler, mais c'est vraiment une voix nouvelle que nous entendons aujourd'hui, et c'est un peu le miracle de ces études bibliques, c'est qu'il y a un sujet, mais chaque intervenant amène sa couleur, sa profondeur, donc merci beaucoup. Voilà le moment des questions-réponses, prenez le temps de me laisser arriver à côté de vous pour que la question soit entendue et que, du coup, la réponse soit intelligible. Qui veut poser une question ?
Merci d'abord pour cet exposé. J'ai été, dès le début, piquée dans ma curiosité par ce terme de liberté individuelle que vous avez beaucoup développé tout au long de l'exposé. À laquelle les protestants sont très très attachés, de par l'histoire aussi. Et du coup, je me pose la question suivante, comment vous articulez cette notion de liberté individuelle pour un chrétien, et particulièrement au sein de l'Église catholique, qui comporte quand même ses règles, ses principes et son organisation, cette force d'organisation pyramidale au sein de l'Église?
Il va pas vouloir revenir manger chez nous.
Eh bien, c'est une bonne question. Je vous remercie, Madame le Pasteur, de l'avoir posée. Voilà. Bon, je crois que la première chose, enfin, qui m'a un peu frappé, c'est que dans un premier temps, la vision que j'avais un petit peu extérieurement de l'Église catholique était effectivement, voilà, Panzer Division, hein, enfin, quelque chose de très je m'aperçois qu'il y a une extraordinaire diversité de sensibilités, et ça depuis toujours, hein, dans l'Église catholique, à commencer par les premiers apôtres, enfin on ne va pas revendiquer nous les apôtres pour les catholiques seulement, mais voilà, je veux dire par là qu'il y a cette possibilité, hein, de pouvoir effectivement lire les choses, et je suis personnellement donc un disciple de saint François de Sales, un humaniste haut savoyard, hein, donc voilà. Alors, et cet homme-là, je dirais, a une sensibilité, par exemple, qui serait contrairement démentie par d'autres sensibilités. Enfin, je veux dire qu'il y a, je dirais, ce dialogue un peu permanent dans l'Église catholique, alors qui quelquefois, c'est vrai, se traduit par, comme dans les matchs de foot, par le carton rouge, en disant « Ah non, ce que vous dites là, c'est pas bon ». Mais quand on regarde aussi l'histoire, ceux qui ont reçu des cartons rouges sont quelquefois devenus cardinaux après. Le rouge a changé de couleur, hein. Donc, voilà, d'endroit en tout cas, hein. Donc je crois qu'il y a ce débat fécond, hein, qui est important, et c'est pas stalinien. Enfin, je crois qu'on a cette possibilité d'avoir une diversité. Alors, je suis d'ailleurs très étonné, enfin, quand je vois ma communauté le dimanche, je dis, enfin, c'est étonnant tout ce qui rassemble des gens aussi différents, parce que quand on parle un peu avec eux, ils n'ont pas tous la même idée, hein, surtout sur des sujets, on en parlait de sociétés assez brûlantes, dans lesquelles je ne vais pas rentrer, hein, mais voilà. Mais voilà, ça, voilà. Et je crois que, voilà, ce qui va être important, effectivement, c'est que, ben, qu'on ait cette liberté de pouvoir en parler. Et je dirais qu'on est à une époque maintenant où, bon, depuis le Concile, enfin pour nous c'est un événement extrêmement important, on a un peu retourné cette idée. Avant on voyait quelque chose d'un peu féodal, hein, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples de racheté, dont l'attitude était soit genou à la lévation, soit la main dans la poche pour donner à la quête. Hein, voilà. Mais donc, je crois qu'on a renversé les choses. Hein. Au fond, c'est d'abord le peuple débaptisé, et après ça, il y a une hiérarchie de service. Et que, effectivement, même si à certains moments, on va dire, comment on dit, certains partis politiques, on a eu un débat fructueux, hein, voilà, c'était vigoureux, quoi. Mais je vois dans notre Église, et par ailleurs, c'est vrai qu'il y a ce souci de communion, ce souci de pas fonder chacun notre propre Église. Donc je ne mets pas à mon compte ma paroisse en disant, tiens, voilà, les adeptes de Michel Tournade, ça serait sympa, quoi, on pourrait mettre mon portrait à l'entrée, ça serait... Non, je veux dire, voilà, on a aussi ce souci. Alors c'est toujours un paradoxe, c'est toujours une tension, c'est toujours quelque chose, mais voilà, alors je crois que je n'ai pas trop répondu à la question, mais c'est un petit peu quand même, voilà.
Merci. Autre question? C'est la première fois, moi, que j'entends parler de ce rôle de l'amitié. Et ça m'a frappé parce qu'effectivement, il y a un passage des Évangiles où Jésus dit « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis ». Et c'est toujours étonnant, cette phrase, alors qu'il vit avec eux, c'est lui qui les a choisis. Donc j'ai été frappé par ce... C'est pas quelque chose qu'on a... On parle de fraternité, on parle de beaucoup de choses, de partage, de bien commun, mais l'amitié, ça c'est particulier. Oui, vous pouvez vous rapprocher un petit peu? Je vais faire une partie du chemin.
Alors, qu'entend-on exactement par le mot politique? Et est-ce que Jésus, dans ses prises de position, a-t-il fait de la politique?
Voilà, là on est dans le vif du sujet. Aussi.
Voilà, alors c'est effectivement excellent de vouloir définir un peu les choses, c'est ce qu'on demande aux étudiants en philosophie. Dans le sens le plus général où j'ai employé, la politique, c'est l'ordonnancement du bien commun, voilà, au service d'une société que nous formons. Par exemple, notre nation, peut-être plus largement l'Europe, etc., et les rapports que nous pouvons entretenir dans ce formulage qu'est le monde. Après ça, on emploie quelquefois le mot politique dans un sens plus partisan. Dans ce cas-là, ce serait une prise de position qui serait partisane, mais elle est très légitime dans l'exercice de sa liberté. Je peux, comme être humain, choisir de militer, de poser des actes, de revendiquer, de militer pour obtenir un résultat. Et dans ce sens-là, quelquefois, on dit, eh bien, le prêtre, le pasteur ne doit pas faire de politique, c'est-à-dire que à ce moment-là, s'il prend une attitude partisane, elle serait susceptible de diviser la communauté, par exemple. Alors voilà, je crois qu'on emploie ce mot-là un petit peu dans des sens différents. Alors, Jésus, oui, a fait de la politique dans la mesure où il décline le monde qui, d'après ce que je comprends, est le rêve de Dieu, hein, c'est-à-dire que cet étrange mammifère qu'est l'être humain, doué de raison, et ça c'est quand même très étonnant quand on regarde, hein, et aussi donc l'exercice de sa liberté, a vocation eh bien, de co-créer, hein, d'organiser un monde qui soit un petit peu dans cet esprit du rêve de Dieu, un petit peu et de plus en plus si possible. Et c'est fait effectivement de partage, d'amitié, de solidarité, enfin de tout ce que vous pouvez imaginer, de justice, etc. Donc dans ce sens-là, oui, il y a un projet politique hein, au sens noble, hein, au sens, voilà, il y a une vision, je dirais, grandiose de l'humain. Nous avons des idées sur l'humanité comme chrétiens, comme croyants. Hein. Donc je crois que c'est important. Après, c'est vrai que Jésus n'a pas rejoint le parti des Zélotes ou celui des Sadducéens, ou il n'a pas dit aux Romains qu'ils avaient raison d'être les occupants, etc. Donc il s'est tenu, c'est vrai, en dehors des fractures hein, qui agitaient d'une façon extrêmement violente à son époque les différentes strates de la société de son temps. Donc vous voyez, ma réponse est oui et non, ça dépend comment on entend le mot politique. Voilà mon avis personnel. Mais encore une fois, je ne suis pas un expert.
Merci. Autre question. Pendant que vous réfléchissez, pardon.
Je ne sais pas si je me trompe, si je dis que le Christ, il a fait de la politique au niveau individuel. C'est-à-dire qu'il n'a jamais dit « faites telle manifestation » ou « on va fonder tel parti ». Mais à chaque fois qu'il a trouvé que quelque chose n'était pas normal dans une société, sur le plan individuel, la femme adultère, là il va dire que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est une façon de... pas de s'opposer violemment à l'époque, mais de dire que, bon, ben, on n'est pas obligé de les appliquer. Donc je pense qu'il est toujours dans la relation individuelle, le Christ. Dans ce sens-là, il est presque anarchiste. Là, je suppose.
Tout dépend du sens du mot anarchiste. Oui, je crois que il est dans une optique de conversion individuelle sûrement, et ça c'est un point essentiel, c'est l'exercice de sa liberté, conversion collective aussi. Hein. Je pense à cet épisode de la tour qui s'était effondrée, vous savez, on lui rapporte, on a eu ça dans notre culte il n'y a pas longtemps, donc deux épisodes qui sont presque des faits divers du journal, un massacre de Galiléens par des sicaires commandités par Pilate, et l'effondrement de la tour. Et Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. Donc voilà, dans l'exégèse là-dessus, ce que je comprends, c'est que la logique d'irresponsabilité, par exemple, d'architectes qui bâtissent des édifices, je dirais, audacieux, mais peu stables, qui ont écrasé des gens, la logique de violence des Galiléens indépendantistes qui sont dans un cycle de répression et d'agression, si vous voulez, eh bien ces logiques-là, nous en sommes prévenus, sont destructrices. Hein. C'est-à-dire que là, il y a bien, je dirais, un chemin qui est décliné, qui est celui justement de sortir hein, du cycle exponentiel de la violence, de la vengeance, de la contre-vengeance, etc. Donc remets ton épée au fourreau, hein, celui qui tue par l'épée se bourra à son tour par l'épée. Donc il y a là quelque chose aussi, je dirais, qui est désigné comme un immense risque de la liberté humaine, de s'égarer sur des chemins qui peuvent paraître des raccourcis efficaces, mais qui, en définitive, eh bien, s'avéreront désastreux, aussi bien par rapport à l'usage que l'on peut faire de l'aménagement de la création. Hein, la tour qui s'effondre, on a bien des tours écologistes qui sont en train de s'effondrer, et le fait de trouver de la viande de cheval dans les raviolis, c'est peut-être pas le pire. Hein. Et en même temps, eh bien, il y a cette logique de violence, hein, mais qu'on regarde tous les jours dans les journaux télévisés, et, voilà, et sortir un petit peu, et le Christ va désamorcer justement cette logique de violence, enfin, il va suggérer des chemins pour le faire, commencer par celui de la miséricorde et du pardon, ce qui est une révolution extraordinaire hein, par rapport au rite sacrificiel habituel, par exemple.
Question ?
Oui,
cette question sur la politique et la religion pose le problème, comme l'a très bien expliqué le père Tournade, de la liberté. On aspire à la liberté et on croit à un Dieu qui est non seulement créateur, mais qui est libérateur. Mais que fait-on de cette liberté? Et c'est intéressant, je lisais cette nuit un livre que m'a offert le pasteur Michel Bertrand, parce que je lui expliquais que j'avais du mal à que Calvin est quand même plus difficile pour moi à porter. Et c'est un livre sur plus... Et en particulier, la création des églises, des communautés protestantes dans le midi de la France. Et c'est intéressant de voir qu'à Nîmes, l'église qui était d'abord secrète, cachée, a ensuite été autorisée, donc elle est apparue en ville, donc elle avait des directions qui s'occupaient un peu de tout. Et au fur et à mesure qu'elle est montée en puissance, elle a éprouvé le besoin de séparer, d'avoir des gens responsables du social, ça ils s'en occupaient, mais des gens qui s'occupaient du cultuel, des gens qui s'occupaient, comme il y avait quand même des risques, il y avait les armées royales qui s'approchaient de temps en temps, ils ont même eu un siège, il a fallu créer une organisation de défense. Tout naturellement, ils sont arrivés à dire on ne peut pas tout faire, donc nous on va s'occuper de la partie religieuse et on va confier la partie justice, organisation sociale à des gens délégués, voilà. On voit ça un petit peu aussi dans les Actes des Apôtres, quand on voit les disciples se dire, on leur reproche que les veuves ne sont pas bien servies, et ils se disent, bon, ben nous, on ne peut pas négliger le culte de Dieu, mais ce qu'on peut faire, c'est nommer des gens qui vont s'occuper de ça. Donc, il y a toujours un moment où il faut déléguer, et puis, donc voilà, la liberté, certes, mais peut-être qu'il faut l'organiser, et alors à ce moment-là, on a bien entendu là pour le bien commun. C'est sûr que dans la dignité de l'individu, enfin, c'est là que le mot politique, c'est-à-dire vie de la cité dans laquelle on vit, prend son. C'est vrai que le mot est dévalorisé maintenant et que quand on dit politique, on pense vie politicienne et tout de suite, voilà, on en a parlé hier au soir, c'est dommage d'ailleurs, mais c'est actuellement, ça fait partie de ces mots qui évolue dans le temps et pas dans le bon sens, quoi. Oui.
Vous dites, introduit ce que je pensais dire, pourquoi, puisque le Seigneur a dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, tout au long des siècles, les chrétiens se sont si peu manifestés dans cet aspect de la vie de la cité, comme vous disiez, parce que ce sont des choix de vie ensemble. Comment on utilise l'argent que l'on met en commun. Et je pense que c'est dommage, et peut-être que les chrétiens pourraient se réveiller aujourd'hui pour s'engager. Il n'y a pas de parti chrétien vraiment valable ou authentique. Alors la question, c'est quand même très grave. En ce moment, on est en train d'éditer des lois très, très, très controversées et très iniques. Donc le choix de ces personnes qui nous gouvernent, alors je me dis, nous en tant que chrétiens, nous avons une grande responsabilité vis-à-vis du Seigneur et vis-à-vis de nos concitoyens de laisser faire certaines choses. Et là, il manque un engagement, à mon avis, hein, de chrétiens dans cette vie de la cité.
Merci Josette.
Sûrement, enfin je veux dire, je crois que c'est un souci permanent d'être présent dans la cité, d'avoir une parole qui puisse éclairer. Je crois qu'il y a des paroles, comme toute parole prophétique, qui sont refusées pendant un certain temps. Je pense par exemple au renseignement qui a été donné dans notre église, par exemple par les papes, à propos du capitalisme. Et on s'est gossé pendant très longtemps hein, de ces papes qui dénonçaient stupidement l'économie de marché, ou je ne sais pas quoi, c'était pas tout à fait ça d'ailleurs. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait d'une façon vertigineuse l'expérience de la limite de ce que peut être notre système financier, dans une perversité hein, qui ne pourra pas durer indéfiniment. Donc effectivement, ces paroles commencent à acquérir une certaine validité, y compris auprès de gens qui n'ont pas particulièrement de soucis ni religieux ni confessionnels. Donc je crois qu'il y a ça, bon, savoir qu'une parole, ben, c'est un peu comme une graine, elle a besoin d'avoir le temps de la germination, mais c'est bien notre responsabilité, effectivement, d'être présent, de dire, de parler, d'exprimer les choses, et d'avoir, je dirais, une réflexion construite dans tous ces domaines, ce que Notre Église s'efforce de faire, par exemple, je sais que c'est le cas aussi des autres Églises qui ont ce souci d'avoir une parole pertinente pour aujourd'hui et qui sont toujours un peu dans le défi de renouveler cette parole, de l'actualiser. Le Christ, au fond, nous demande d'actualiser le message d'Évangile. Mais c'est effectivement bien notre vocation. Et bon, voilà, je crois que ce n'est pas une parole qui s'impose au nom même de la liberté. On ne peut pas employer des moyens non évangéliques pour annoncer l'Évangile. Mais il y a cette présence qui est tout à fait nécessaire. Je pensais une petite chose par rapport à ce que vous avez dit aussi tout à l'heure, hein, par rapport à l'organisation de l'autorité. Je crois que l'Évangile nous invite aussi à une notion qui chez nous, qu'on appelle nous la subsidiarité. Enfin, c'est pour nous un élément important. C'est-à-dire au fond cette confiance qui va être faite aux personnes qui se voient confier une responsabilité et qui vont avoir à l'accomplir. Il y a donc de la part de l'autorité, par exemple, quelque chose, bon, c'est un tout petit détail, mais vous savez, dans notre Église, ce sont des équipes qui font des prières des fidèles, comme on dit, c'est-à-dire c'est un moment de la liturgie où on exprime une prière communautaire à Dieu, après la lecture de la parole, on fait comme ça. Et alors, au début, ceux qui sont venus me la présenter, je dis, bon, ben, c'est très bien, vous l'avez fait, mais vous ne la relisez pas? Non, surtout pas. Je veux dire, c'est vous qui êtes chargé de faire ça. Vous direz sûrement les choses d'une façon très différente de ce que je pourrais dire moi, mais c'est justement ça qui est intéressant. Enfin, je veux dire, sinon je l'ai fait moi-même, ça c'est pas... Mais vous voyez, je crois qu'il y a un petit peu, alors c'est un tout petit détail, mais je crois que la subsidiarité c'est un peu ça, enfin c'est cette confiance qui va être faite dans l'organisation que l'on va se donner, qui n'empêche pas d'ailleurs, et au contraire, qu'il puisse y avoir une reddition de compte. Et voilà, Jésus dit ça souvent, l'intendant qui doit rendre des comptes, mais il s'est vu confier la fortune de son maître. Mais il y a aussi, qu'as tu fait de ce qui t'a été confié, c'est normal que tu rendes compte. Voilà, je crois qu'au niveau d'organisation, c'est un élément qui s'inspire de l'Évangile et qui fonctionne plutôt bien. Sinon, c'est le number one doit tout faire, au bout d'un moment, il sature, on ne lui fait pas tout très bien, vous savez. On m'a demandé ce que je pensais de la plantation de la haie de la paroisse. Je n'ai aucune compétence pour la planter. Il y avait des gens qui connaissaient ça, mais j'ai mes côtés faites. Voilà. Normalement, le curé devait avoir un avis sur la haie.
Merci. Question? Oui. Tu peux t'approcher un peu? Non. Ça sent, on n'entend pas.
Non, c'était juste pour faire un lien avec la conférence d'hier soir concernant justement la tension. Vous avez parlé de tension tout à l'heure. Hier soir, on a aussi entendu parler de tension au niveau des choix justement qui sont faits, qui sont donnés par cette liberté gagnée et qui est difficile justement de savoir jusqu'où aller, comment se guider. Bon, on parlait de politique, religion, les choses s'imbriquent, mais bon, jusqu'où aller, dans un sens ou dans un autre, à certains moments. Donc, c'est là où justement la confrontation des points de vue est importante. Voilà.
Merci, Catherine.
Mais je crois qu'il y a une attitude évangélique qui est difficile, c'est de ne pas disqualifier a priori un positionnement qui n'est pas le nôtre. Et ça, c'est toujours un défi. Dire voilà, je peux présupposer que moi, j'ai cet avis-là et de toute bonne foi, et c'est construit, et c'est conscient, et c'est argumenté, mais ne pas considérer celui qui a l'avis antinomique comme étant quelqu'un qui n'a rien compris. Qui est stupide, qui n'est pas du tout dans la ligne 2, etc. Donc je peux présupposer qu'il est aussi de bonne foi, qu'il a aussi un souci qui est légitime, et que par conséquent, ce qu'il va me dire doit être entendu. Et effectivement, peut-être nous n'avons pas la même façon de poser les choses, par exemple. Vous savez, c'est ce qu'on dit en philo, quand une question est mal posée, forcément la réponse fonctionne pas. C'est la fameuse histoire, vous savez, c'est l'histoire juive d'ailleurs, hein. Ces deux hommes qui tombent d'une cheminée, l'un est propre et l'autre est sale. Lequel va se laver? Bon, je ne sais pas ce que vous dites, hein. Ce n'est pas celui qui est sale. Non, mais il ne peut pas savoir qu'il est sale, puisque en face de lui, l'autre est propre. Hein. Il ne sait pas qui. Alors, bon, c'est à ce moment-là, c'est celui qui est propre qui va se laver. Mais non, mais s'il est propre, pourquoi il irait se laver? Alors finalement, eh bien, la réponse est toujours inadéquate, parce qu'il est impossible qu'un homme, que deux hommes qui descendent d'une cheminée, il y en ait un qui soit sale et l'autre propre. C'est mal posé, quoi. La réponse ne peut être que fausse, quoi. Alors c'est ça, quelquefois je crois qu'on est sur des fondements, hein, qui effectivement vont ancrer notre conviction, mais c'est intéressant de repérer d'abord sur quoi on le fonde nous-mêmes, notre conviction, et puis sur quoi l'autre fonde. Mais présupposer qu'il a forcément tort et que forcément son présupposé est bancal, ça ne me semble pas une attitude évangélique. Ceci dit, c'est pas facile du tout. Du tout, surtout quand on a des convictions, et c'est légitime d'en avoir, c'est notre liberté. Mais je crois que c'est le défi, voilà, hein, de fraternité qui peut devenir même amicale, hein, d'arriver à ce style-là. Et c'est effectivement le regard de Jésus quand même, hein. Enfin, il y a quelque chose qui se passe de très profond là-dessus. C'est pour ça, je crois que, comme je disais tout à l'heure, on a toujours une marge de progression, quoi. Voilà.
Ça ne me paraît pas si difficile, enfin c'est vrai que vous venez de parler du regard de Jésus, et ça ne me paraît pas si difficile de poser un bon regard sur l'autre qui a certainement quelque chose à m'apprendre et d'avoir ce préjugé favorable dès le départ, parce que c'est toujours enrichissant d'être avec quelqu'un qui va vivre différemment, penser différemment, et on peut s'enrichir les uns des autres.
Très beau projet, bravo. Sûrement, oui, oui.
Mais moi, je trouve que c'est pas si facile que ça. J'ai entendu parler de parti chrétien. Alors, je sais pas exactement, mais j'ai quand même une petite idée de savoir comment ça se passe chez les catholiques. Mais je sais comment ça se passe chez nous. Et vraiment, j'imagine même pas un parti protestant. Parce qu'il y aurait pratiquement autant d'idées que de protestants. Et je sais que quand j'avais rencontré l'évêque, quand il s'était installé, il m'avait dit « Comment vous classeriez votre communauté, plutôt droite, plutôt gauche ?» Je lui dis « Elle fait le grand écart. » Car je peux vous dire qu'à la sortie du culte, suivant ce qui a été dit sur l'évangile, on est approché par des gens qui disent « Mais aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un évangile communiste, c'est un évangile socialiste, c'est la révolution. » Ou au contraire, un autre dimanche, on va vous dire « Ah mais là c'est très conservateur, c'est très respectueux, c'est vrai. » Et je pense que chez les catholiques, parce qu'ils sont chrétiens aussi, eh bien il y a le même problème. Donc c'est peut-être pour ça que nos partis dits chrétiens n'ont pas eu un grand succès. Par contre, j'ai retenu que les chrétiens devraient s'engager. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait dans le temps. Ils l'ont fait, ils le font encore maintenant. Ce qu'on peut reprocher peut-être, c'est qu'ils le font discrètement et qu'ils n'annoncent pas toujours pourquoi ils ont ces convictions et pourquoi ils s'engagent et ce qu'ils veulent défendre. On en revient à ce que disait le père Tournade, c'est-à-dire la dignité humaine, le respect de l'individu, le bien commun. Voilà. Faut pas avoir honte. Encore une question ?
Le sens de la hiérarchie. Le sens de la hiérarchie. J'ai toujours eu un problème avec la hiérarchie. Parce que je vois pas pourquoi. À l'heure actuelle, donc, à l'heure actuelle, ce qui est choquant, ce sont ces hommes ou ces femmes qui se suicident professionnellement, hein, parce que dans leur métier, ils ne peuvent pas s'exprimer. Et ce ne sont pas des imbéciles. Hein, en général, ce sont des ingénieurs, des cadres, des choses comme ça. Pourquoi ? À l'heure actuelle, la hiérarchie empêche tout dialogue. Certaines hiérarchies.
Écoutez, oui, je ne sais pas trop. Alors, je pense qu'on a besoin de décrisper un peu notre vision hiérarchique. chose amusante, mais ça ne se passe sûrement pas dans les autres églises, mais lorsque j'étais directeur à Saint-Michel, il y avait des gens qui disaient « Mon père, il faut absolument que vous veniez manger à la maison. Mais vraiment, c'est important pour nous. » Bon, j'avais un agenda très très rempli. Et une fois que j'ai pu être directeur, j'ai dit à certaines de ces personnes « Mais maintenant, j'ai un peu plus de temps. »« Non, mais non, je mange pas le temps. » C'est amusant. Alors nous, ça nous amuse comme religieux, parce qu'effectivement, voilà, je veux dire, on n'est pas, moi, je suis ancien directeur de Saint-Michel, je devrais avoir un poste au moins meilleur, etc. On n'est pas du tout dans ce genre de truc, et c'est heureux, c'est plutôt rigolo pour nous. Mais je crois qu'effectivement, d'abord, quel est notre rapport hiérarchique, hein, un confrère qui un petit peu orientait beaucoup les élèves avec grandes écoles, et... Donc, il disait, voilà, j'ai un ancien élève qui a très bien réussi, il a fait une prépa, et puis il est à l'école centrale. Et j'avais un autre confrère qui disait, ben moi j'ai aussi un ancien élève qui a très bien réussi, il est boulanger. Et ça est tac. Et ça c'est sympa, quoi. Enfin, je veux dire, je trouvais que c'était assez bien. Alors après, sur la violence des rapports hiérarchiques, hein, c'est sûrement quelque chose qui est compliqué. Je ne suis pas non plus un expert en management. C'est sûr qu'il y a toute une réflexion qui doit être faite là-dessus, ne serait-ce que pour des questions d'efficacité. Quelquefois, l'approche peut être pragmatique, mais en disant, au fond, si les gens de notre entreprise sont à ce point désespérés qu'ils font des choses terribles, nous avons un vrai problème. Hein, oui, je crois qu'il y a cette humanisation qui est extrêmement importante. Après ça, voilà, je crois que... Bon, un des soucis, d'après ce que je sais, mais encore une fois, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question, mais en parlant avec certaines personnes qui sont dans les entreprises, c'est que la logique des entreprises n'est plus de les faire diriger par des managers, comme c'était autrefois, qui développent l'entreprise, mais par des directeurs financiers, très très souvent. Et donc le directeur financier a besoin de résultats immédiats et rapides. Et donc pour ça, je dirais, les autres fonctions, y compris d'investissement à long terme, par exemple, ne l'intéressent pas beaucoup. Hein, ce qui va l'intéresser, c'est effectivement de servir quelque chose d'intéressant pour les actionnaires. Et donc là, on est sur une logique, mais à mon avis, dont on fera les limites assez vite aussi, comme on a fait les limites, on est en train de faire pour la crise économique. Je crois qu'il y a forcément des choses qui nous rejoignent à un moment, et même si c'est assez dramatique pour un certain nombre de gens, c'est aussi une nécessité d'y réfléchir, et d'y réfléchir au plus haut niveau. Voilà. Ceci dit, je n'ai pas grand-chose à dire de plus.
On va dire que tout est dit. Merci, Père Tournade, de nous avoir consacré ce temps. Merci beaucoup, et effectivement, c'est une voie nouvelle et des mots comme dignité humaine, amitié, bien commun, respect de l'individu, tout ça, ça nous parle et on avance dans notre semaine. Alors, ça va être le moment du dessert. Avant de passer à autre chose, je voudrais que vous laissiez le conférencier approcher de la table de café-dessert. Chaque année, c'est mon plus gros travail d'essayer que le conférencier ne reparte pas privé de dessert.
C'est pas très grave.
Alors, la semaine thématique continue. Demain midi, c'est le pasteur Fabrice Henriot, pasteur adventiste, mais qui est actuellement journaliste, directeur d'antenne à Radio Semnos, qui viendra, ça nous fera deux journalistes dans la semaine. Jeudi, c'est le docteur Albert Fachler, président de la communauté juive de Chambéry, que vous connaissez bien, qui viendra. Et vendredi, c'est le pasteur Bruno Gérard, qui parlera sur le livre des juges, politique et religion, une bien épineuse question. Vous avez derrière moi le tableau fait par notre frère Jean-Yves Gonzalez pour essayer d'illustrer, et il s'en est bien tiré. Je me demandais ce qu'il allait nous faire cette année. Il y aura samedi à 17h30 ici un concert gospel avec le groupe Good News. Et puis il y aura un culte de clôture avec notre pasteur Charlotte Gérard dimanche à 10h. Voilà. Donc je vous attends demain. Ah oui, j'oubliais, je vous dis toujours quelque chose. Alors, prenez le temps avant de descendre, de faire le tour de ces affiches qui sont l'exposition qui avait eu lieu pour le centenaire de la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Et puis en bas, dans le temps, vous avez l'exposition Visage, qui est un peu en rapport avec politique et religion, dans le sens où on voit des visages actuels, et dessous illustrés par des versets qui correspondent à leurs convictions. Voilà, encore merci, Père Tournade, et puis j'espère que vous allez avoir droit au dessert. Bonne journée.